La guerre a commencé. Tout le monde en position. C'est ce qu'on se disait lorsqu'on était gamin et qu'on jouait à la guerre avec mes copains. On était armés de branches de papayers, hein, qu'on coupait et ensuite ça ressemblait à des sortes de d'armes, hein, de AK-47 ou je sais pas moi, de calibre 12. C'est avec ça qu'on s'amusait. Et on imaginait qu'on était en pleine guerre. Et on lançait ce cri, hein, avant de commencer la bataille. On lançait ce fameux cri. La guerre a commencé, tout le monde en position. En effet, bonjour et bonsoir à tous. D'abord, vie, durée et santé. Muntu Hotep 2, épisode 15. En effet, il faut remonter à la petite enfance, très loin dans le passé, pour pouvoir comprendre quelles sont les racines des conflits d'aujourd'hui. Et c'est ce que nous avons fait en analysant la polémique de la semaine passée sur la Chine et l'Afrique. Et bien, nous sommes rendus compte qu'il nous fallait aller voir quels étaient les rapports les plus précoces entre l'Asie et l'Afrique, du moins les tribus asiatiques telles qu'elles sont appelées, avec l'Afrique. Et nous avons vu que dès l'ancien empire déjà, avec Narmer, dans le prédynastique déjà, il y avait ces rapports tendus entre ce qui est appelé, ces tribus qui étaient appelées dites, donc dites asiatiques, et l'Afrique, ou du moins la Tamérie, hein, parce que c'est le nom qui est originel, ou Kama même pour certaines personnes. Donc, il y avait déjà des rapports très tendus, il y avait déjà ce rapport de convoitise sur les richesses de la Tamérie, de la terre bien-aimée, hein, sur le Nil, sur ses champs, sur ses ressources minières, surtout vers le pays de Kush, qu'on appellera plus tard la Nubie. Il y aura la convoitise donc de ces terres fertiles, de ce sol et de ce sous-sol riche. Et comme nous l'avons dit, aussi bien dans l'ancien empire, c'est-à-dire de la première dynastie à la sixième dynastie qui se terminera avec le règne de Pépi II, première période intermédiaire dans laquelle nous entrons et qui va introduire nos personnages, à savoir Muntu Hotep, Merikare, Anctifi, et nous verrons bientôt Banquette 3 et d'autres personnages comme ça, ou en couleur, qui vont venir un peu agrémenter la saga que nous explorons aujourd'hui. Et plus tard donc, nous dirons, vers la 12e dynastie, c'est vrai que j'enjambe un peu, on verra des tribus asiatiques, dites asiatiques ou sémitiques, qui entreront en Égypte, et ce qui va lentement mais sûrement dériver vers la fameuse invasion des Hyksos, invasion qui n'a pas été simplement guerrière d'un coup, mais qui a été d'abord idéologique, car les femmes Hyksos qui étaient dans les temples, les harems égyptiens, ont eu à donner des fils et des filles qui ont été élevés dans le projet secret d'envahir la Tamérie, et ainsi ils ont pu ouvrir les ponts-levis, s'il faut le dire, qui ont permis aux Hyksos d'entrer. Nous rappelons que la fameuse forteresse de Buen, qui est le premier type, en tout cas connu, de château fort dans l'histoire de l'humanité, et d'invention africaine, égyptienne, car les châteaux forts ont connu leur essor après la 11e dynastie, où nous voyons avec Senssouret III, cette fabuleuse forteresse de Buen que l'on trouve entre la Nubie et l'Égypte, la Tamérie. Mais nous rappelons que ces forteresses n'étaient pas simplement de lieux de guerre, mais c'était aussi des centres commerciaux, car aux alentours de cette forteresse, on ne trouve pas de squelettes ou de traces de guerre. Et bien plus tôt, nous savons aussi que ces forteresses sont issues de l'architecture nubienne de Kush, donc du sud, qui a été emportée là-bas, qui a été donc empruntée par les Remetou, les Égyptiens, par leurs frères, leurs pères, je dirais même, et grand-pères et grandes-mères, car l'Afrique est matriarcale. C'est cette civilisation-là qui donnera naissance, évidemment, à la Tamérie, à cette cité, à cet état. Donc, plus tard encore, ces sémites donc entreront et nous aurons les tribus asiatiques qui entreront, et plus tard dans l'histoire égyptienne, bien que l'Égypte avait été reconquise par ses fils et ses filles, Nous verrons plus tard les Assyriens qui viendront. Nous aurons la fabuleuse épopée de piller, ou appelée aussi Pianki, dont nous avons parlé lorsque nous parlions de transformer la guerre en une croisade, qui a fait une entrée triomphale au niveau de la capitale Thèbes et au niveau de la basse Égypte pour délivrer le pays. Mais plus tard, sous son fils Taharqa et peut-être même Tanoutamon, l'Égypte sera perdue pour avantager les Assyriens. Et plus tard, comme nous l'avons dit, s'en suivra des vagues d'invasion aussi bien libyennes que par exemple grecques, romaines, perses, arabes, françaises, anglaises et j'en passe, et des meilleures. Donc c'est ainsi que le pays sera pris, et ses richesses prises, et comme nous l'avons dit, vont enrichir d'autres civilisations qui viendront beaucoup plus tard pour coloniser ces pays et imposer une image de la religion qui est complètement dénaturée de ses racines, et introduiront aussi des loges qui vont être maquillées dans le sens où on ne dira pas quelles sont les véritables racines de ces courants de pensée, de ces idéologies, mais on va les maquiller d'une origine tout simplement occidentale ou purement asiatique, alors que nous venons de montrer les racines de la civilisation asiatique dès la préhistoire et bien plus tard dans la période antique, où de nombreuses tribus asiatiques viennent pour piller les temples égyptiens pour les ramener chez eux, ou tout simplement dans les côtés le plus oriental de l'Asie. C'est tout simplement des migrations africaines qui se sont faites, et voilà pourquoi comme je l'ai dit dans l'émission précédente, je vous renvoie au livre de Rachidi Runoko, Histoire millénaire des Noirs en Asie, pour comprendre comment est-ce que la culture africaine ou de Kemet s'est déversée au niveau de l'Asie. Très enrichissant. Donc, comme nous le disons, lorsque ces explorateurs, dits explorateurs, sont arrivés, des pirates donc, pour la colonisation, l'esclavage d'abord avant ça, eh bien, des loges seront implantées selon un modèle sur lequel ce sont des choses qui sont purement occidentales ou asiatiques, alors que ce sont à la base des choses africaines. Nous donnons par exemple l'exemple du Gabon, qui est encore conscient de son héritage culturel. Nous le disons par exemple lorsqu'on en reparlera tout à l'heure dans l'émission précédente du perroquet, qui est un symbole au fait tout simplement, qui est un messager, qui est le symbole de Thoth, de Djihouti, pour dire au fait que les peuples de ces régions-là sont des messagers, ils reçoivent des messages. Hein. Voilà pourquoi nous avons parlé d'Iboga et tout ça là, parce que c'est des messages qui permettent d'être connectés, tout ça. On a parlé une fois de Adam et Ève, ce qu'ils avaient pris, et ensuite ils sont initiés, ils ont la peau de léopard, ou du moins une peau, et puis ils sont... Bref, on va pas trop s'éterniser là-dessus quand il y a un autre contexte, hein. C'est pas la plateforme idéale pour cela. Mais bon, ce sont des connaissances quand même généraux, au moins des connaissances générales qu'il faut connaître, hein, puisque le plus gros, en tout cas ce qui permet de divulguer, existe de ça et là, mais certaines choses demeurent secrètes, où il faut un certain cadre pour le faire. Donc, nous disions que c'est ainsi que l'humanité a été civilisée par les connaissances et les migrations africaines, mais que très tôt, il y a eu ces jalousies, il y a eu cette convoitise, cette connaissance a été soit donnée, formée, c'est-à-dire quand par exemple les Grecs sont venus, ils ont été formés bénévolement par les prêtres africains égyptiens, mais il y a des connaissances aussi qui ont été arrachées lorsque par exemple les Ptolémées sont arrivés en Égypte et qu'ils ont arraché par la force les connaissances africaines, et plus tard encore même les Français quand ils arrivent et qu'ils prennent ce qu'ils trouvent en Égypte, que beaucoup d'obélisques sont pris par les Européens pour être implantés dans les capitales européennes. Beaucoup de hiéroglyphes africains sont pris pour aller comment dire meubler les capitales européennes. Il y a des obélisques, je pense, il y a des obélisques à Rome, en plein Vatican. Allez-y comprendre quelque chose. Il y a des obélisques à Paris, hein, en Angleterre, je pense, en Argentine, et bon, dans beaucoup de, bien que l'Argentine c'est l'Amérique du Sud, Mais bon, il faudrait que les Européens soient arrivés là-bas. Donc bref, il y a eu beaucoup comme ça d'éléments qui ont été pris en Afrique. Et pourquoi dans la bibliothèque du Louvre a une pyramide? Si la France est si avancée que ça, pourquoi aller prendre quelque chose qui est en Afrique? Pourquoi pas inventer notre forme? Pourquoi en plein 20e siècle, Mitterrand se voit investi de la mission de faire construire une pyramide de verre par un ingénieur asiatique qui lui-même à demi-mot avoué dans une émission qu'il s'était servi du triangle d'or égyptien, ou du moins la section d'or, pour pouvoir la bâtir. Bon, bref, ça c'est dans l'application architecturale mais, ou mathématique, mais du moins en voyant, on sait voir que c'est une pyramide qui vient tout simplement d'Afrique. Et lorsque le dernier président en date a été élu, sa première apparition était d'apparaître devant, je crois, la pyramide du Louvre pour faire un discours. Et dans ces obédiences-là, on va relier ça à l'Égypte, ou je sais pas moi, à Salomon, ou alors qu'on sait très bien que Salomon, la plupart de ces proverbes-là, ces connaissances, ça vient d'Afrique, et que tout, au fait, même lorsqu'on nous parle de Toubal-Caïn dans les Écritures, l'on sait que la maîtrise du fer a commencé avec les peuples africains, car comme Adolphe Joseph Reinach le dit dans son livre « L'Égypte prédynastique », il y avait les populations, c'est-à-dire les Auriens. Il y en avait parmi eux qu'on appelait ceux-là qui sont comme des observateurs des météorites. Donc on pouvait les comprendre comme s'ils étaient des prêtres qui étaient destinés à construire, à bâtir sur le fer. Ou du moins les métaux, avec des astéroïdes qui s'étaient crachés sur la Terre. Et les Néessis, d'après le professeur Covey, eh ben, sont ceux qui observent les étoiles, ou d'autres, les égyptologues disent que ça veut dire ceux qui marmonnent les incantations, mais c'est aussi ceux qui observent l'horizon. Hein, l'horizon qui est lié aussi au mythe égyptien fondateur, avec le soleil, deux piliers aux montagnes, tenus par deux lions et par huit ancêtres primordiaux ayant des haches, plutôt, excusez-moi, des houes à la main. On sait que la houe, c'est le symbole de mairie, ta mairie. La houe qui dit bien aimé, la houe, c'est aussi en Afrique centrale, en Congo, ou Essengo, hein, ou Nsengo. Nsengo, c'est la houe en Kikongo, Essengo, c'est la joie en Lingala. Donc, vous voyez aussi que Meri, ça signifie la houe, et Meri, ça signifie aussi aimer, la joie. Vous voyez, c'est le même univers, c'est la même culture. Donc, ces connaissances ont été maquillées par d'autres qui l'ont utilisé pour construire leur civilisation et venir dire ensuite aux autres que voilà, on vous apporte quelque chose alors qu'ils font que recycler ce qui existait déjà chez nous. Alors, ces différentes conquêtes se sont faites sous le coup de la jalousie, sous le coup de l'envie, et pour pouvoir désarmer ces populations africaines, il y a la littérature a été le fer de lance. Car il fallait prouver au reste de l'humanité que les Noirs ne valaient rien. Et comme nous l'avons dit dans l'émission précédente, c'est là où dans les églises, dans les cathédrales, dans les universités européennes, il s'est donc concocté toute cette idéologie que les Noirs ne valaient rien et qu'ils étaient une sous-race, qu'ils étaient le diable, que les diables ont le peigné en noir, qu'ils étaient un lieu de démons, qu'on appelait ça le continent sombre, et tout ce qui s'en suit. Donc, toute une littérature a été bâtie sur ça, sur l'ignorance et sur la volonté et sur l'obscurantisme et sur la volonté au fait de détruire. Et tout cela, en ne le disant pas en l'air, il y a une littérature abondante sur le sujet. Nous ne pouvons pas tout dire ici, le temps nous manquerait. Nous vous invitons aussi à faire ce travail de recherche et de réflexion par vous-même afin de pouvoir vérifier ce que nous disons ici. Donc il y a eu cette littérature-là de diabolisation des civilisations africaines par Gobineau par exemple, ou par tout un tas de médecins qui voulaient chercher le chaînon manquant en disant que c'est les Africains, et que voilà, vous connaissez la fameuse ligne d'évolution où on montre un singe qui passe par l'homme et qui passe par je ne sais quoi. Et voilà pourquoi jusqu'à présent en Italie, quand vous avez des matchs de football, on crie aux singes, à ceci, cela. Mais curieusement, lorsqu'ils ont eu le coronavirus, ils demandaient à une nation peuplée beaucoup par des Noirs de venir leur venir en aide. Et voilà, c'est ce qui est triste. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de football qui nous suivent. Beaucoup sont certainement fans du Barça, de Barcelone. Mais savez-vous d'où vient le mot Barcelone? Barça. Connaissez-vous Hannibal Barça ou Hannibal Barca, hein, le fameux général noir de Carthage qui, avec son père, ont eu à émigrer vers l'Espagne avec à dos d'éléphants, du moins Hannibal, parce que son père était déjà mort à l'époque, qui a traversé les Pyrénées pour aller se battre avec les Romains. Exploit encore extraordinaire et les stratégies d'Hannibal sont encore à étudier jusqu'à aujourd'hui. Nous reviendrons sur ce personnage, sur cette personnalité historique extraordinaire. Nous reviendrons sur lui dans les émissions qui suivront. Eh bien, Barcelone, eh bien, est issu du nom d'Hannibal. Barça, son nom de famille était Barça, Hannibal Barça ou Hannibal Barca. Eh bien voilà, j'invite encore à lire le livre African Presence in Early Europe. Ce livre-là vous informera sur la vie d'Hannibal et de ce qu'il a accompli, et que derrière un cartouche même de Taharqa, le roi de la 25e dynastie dite nubienne, a été retrouvé aussi en Espagne. C'est que le gars est arrivé jusque dans ces contrées-là. Donc vous voyez que les Africains étaient partout, se sont promenés partout dans l'histoire de l'humanité, et que cela a entraîné des représailles d'autres personnes qui ont eu à vouloir masquer ces faits-là. Donc, avant même l'esclavage, nous l'avons dit dans l'émission précédente, il y avait déjà un travail qui commençait au niveau même des personnages ou des peuples du Moyen-Orient, un travail de diabolisation déjà des populations noires, et ensuite avec les Arabes, et ainsi de suite. Et la traite arabo-musulmane a aussi commencé avant la traite européenne. Mais nous rappelons que le mot esclave est lié aux slaves, aux populations caucasiennes qui habitaient le nord, hein. C'est ce pays, ces peuples-là qui étaient des slaves, qui habitaient la Slavonie, les Sclavonies, et le mot est resté en anglais, slave, esclave, le mot est resté dans les langues indo-européennes, pour dire que c'est un mot qui est endogène, vous voyez. On ne peut inventer un mot que par rapport aux réalités que l'on trouve sur place. Voilà pourquoi dans leur mot, dans leur langue, ils utilisent le mot slave et esclave, parce que c'est le nom des populations et des réalités qui se trouvaient chez eux. Mais chez nous, on n'en a pas ça. Le mot esclave n'existe pas, il y a plutôt le mot indigent, serviteur, et derrière nous utilisons un mot qui est typiquement étranger. On va dire esclave lorsqu'on parle même nos langues. Les mots qui vont définir une personne qui est sous la dépendance de quelqu'un d'autre n'a pas la même réalité sociologique et anthropologique que le mot slave et esclave. Ça, les experts vous le diront. Que ce soit en ancienne Égypte ou dans les langues africaines, il n'y en a pas cela. Si ça apparaît, c'est après les traites négrières. C'est après, mais pas avant les langues endogènes pré-traites. Ça n'existe pas. Nous ne disons peut-être pas qu'il n'y avait pas des captifs, il y en avait, certainement, mais le sort n'était pas le même. Maintenant, on va revenir à la période esclavagiste. Y avait-il des traîtres? Oui, tout comme il y avait des traîtres en France lorsque Hitler faisait la Deuxième Guerre mondiale. Voilà pourquoi Renault a été nationalisé. C'était un traître. Pétain, le général Pétain, français, était un traître, un collabo. Hein? Dans l'armée d'Hitler, il y avait des juifs. Faites vos recherches, vous trouverez. Il y avait des juifs parmi les soldats. Il y a des collabos et des traîtres partout. Mais on ne va pas dire que on va dire que les Français sont des collabos, que c'est les Français qui ont vendu leurs frères, sont des traîtres. Non, simplement d'aller chez les Africains, où la diaspora croit que tous les Africains se sont ligués contre eux pour les vendre à des étrangers. Ils ne se posent pas la question, pour certains en tout cas, pourquoi il y avait des châteaux forts. Et ils ne connaissent pas le nom de ceux-là qui ont résisté, comme la reine Zinga et d'autres en Afrique de l'Ouest. On ne connaît pas les noms de ces gens-là. Mais on dit que voilà, il y avait des guerres tribales et vous avez été vendus. Mais on ne donne pas les noms des héros et des héroïnes qui ont combattu pour maintenir leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants, leurs maris dans la terre bien-aimée. Ça, on n'en parle pas. Donc, il y a eu cette idéologie, donc très tôt, pour dénigrer les Noirs, pour en fait pouvoir justifier l'exploitation qui se faisait chez eux. Et plus tard, lorsque les Asiatiques de l'extrême, donc le Japon et la Chine, ont voulu aussi se sont lancés dans l'exploration de l'Occident et connaître le monde, eh bien, ils n'ont eu pour support pour connaître le monde que ce que les Européens avaient écrit, pour avoir une idée des populations africaines. Mais là, nous caricaturons, car ce serait dire que les Asiatiques n'avaient aucune idée, donc la Chine et le Japon, de ce qui étaient les populations africaines. Alors que nous avons bien dit que les Africains se sont éparpillés partout dans le monde. C'est qu'ils avaient connaissance des Noirs qui étaient aussi présents, mais qu'ils ont certainement fait disparaître. Nous savons par exemple qu'en Afrique du Sud, il y a des traces de commerce entre le Japon et l'Afrique du Sud, le royaume de Makupungwe, je pense, si je prononce très bien. Il y a des cartes, comme le général Han, si je ne me trompe pas, où il y a des cartes asiatiques, chinoises ou japonaises, qui montrent très bien des Noirs amenant des girafes aux empereurs de ces régions-là. Donc il y avait déjà des rapports qui n'étaient pas soumis à l'esclavage. Il y avait déjà des connaissances qu'il y avait des royaumes africains. Je connais, il y a un livre, je crois, 1471, si je ne m'abuse, quelque chose comme ça. En tout cas, le titre du livre est un chiffre qui montre, qui dirait qu'il y avait des Chinois qui étaient arrivés en Amérique avant Colomb. Pourquoi? Parce qu'il y avait des trésors, ce qu'on appelle des treasure ships, hein, treasure ships, où il y avait des, à l'époque, il y avait en Chine des grandes, comment dire, des grands bateaux, hein, des grands bateaux, des grands bâtiments qui voguaient sur l'eau et qui allaient en exploration. Malheureusement, il y avait un empereur qui avait arrêté l'établissement ou la fabrication de ces grands bateaux-là. Et ces bateaux-là seraient probablement arrivés jusqu'au en Amérique, mais ils ne se seraient pas établis. Il y a un documentaire très intéressant sur History Channel qui parle de ça. Pour nous dire en fait que l'histoire de l'humanité n'est pas telle qu'on la connaît, que tout a commencé avec l'exploration en 1492 de Christophe Colomb. Non, les hommes se sont promenés. Il y a eu des échanges entre hommes, entre femmes, entre nations. Ce n'est pas l'histoire qu'on nous montre à la télévision ou dans les livres d'histoire à l'école. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a eu des brassages. Mais comme nous disons, ces populations africaines, curieusement, ont eu tendance à disparaître en Asie, hein, surtout dans l'intérieur. Dans les côtes encore, ça va, on les retrouve encore, comme nous avons parlé de la tribu Jarawa ou encore de la tribu Sidi ou dans l'île Sentinelli. Mais ailleurs, au Japon, en Chine, eh ben, on se rend compte que beaucoup ont disparu. Pourquoi? On se pose la question. Donc, les Japonais ont eu et les Asiatiques ont eu connaissance de ce que les Africains, ce que les Européens avaient pour les Africains, notamment par la théorie de l'évolution, d'où on peut voir cette fameuse œuvre d'art en Chine où on montre des singes avec des Africains à côté, hein. Vous pouvez comprendre la vision que ces gens ont de nous. Mais on peut leur poser aussi la question, qu'avez-vous fait des populations noires qui étaient présentes à l'époque chez vous? Une question qui dérange. Où est la réponse? Donc, vous voyez très bien que ces populations qui sont arrivées en premier ont eu à établir des civilisations et qui ont curieusement disparu de la manière que je vous laisse deviner. Mais après, on va dire, oh non, les Africains, c'est eux qui sont les mauvais, c'est les Africains, c'est eux, on nous maltraite partout. Est-ce parce que nous avons fait une erreur? Un péché innommable? Moi, je dirais tout simplement, pas plus que les autres, tous ont péché, comme on dit ailleurs, et sont privés de la gloire de Dieu, hein. Les Japonais, les Américains, ou les, plutôt les Allemands, ont gazé les Juifs. Eh bien, aujourd'hui, l'Allemagne, c'est toujours parmi les 5 premières économies du monde, du moins parmi les 10 premières économies du monde. Sont-ils victimes d'une certaine malédiction qui ferait qu'ils n'avancent pas? Eh bien, non. Ils ont gazé les Juifs, ils sont toujours là. Bon. Ni même que les Italiens qui travaillaient avec les Allemands à l'époque, eh bien, ils sont toujours là. C'est vrai qu'il y a le corona, on va dire que non, mais l'économie italienne a toujours prospéré. Bien que oui, l'Empire romain après ça est tombé, a chuté, mais on va pas comparer en tout cas la Rome d'aujourd'hui avec le Congo. Donc, on se rend bien compte qu'il y a eu une campagne de diabolisation, d'auto-flagellation des Africains qui doivent croire qu'il y a une malédiction comme celle de Cham qui est sur eux, qui pèse sur eux et qui ferait qu'ils méritent d'avoir été en esclavage, qu'ils méritent d'être sous la pauvreté, qu'ils méritent surtout d'être sous le joug des hommes. Et nous avons démontré que cette malédiction est une pure supercherie, du moins d'après dans les commentaires des premiers rabbins qui ont commenté là-dessus et à juste avant l'esclavage, où il fallait justifier, où il y a eu beaucoup d'intellectuels qui ont commencé à écrire, qui ont remis encore l'accent sur ces choses. Ça avait été, c'était entré en dormance, mais c'est revenu encore juste avant l'esclavage avec beaucoup de théories racistes sous l'époque dite des Lumières, après avoir absorbé les connaissances africaines des morts qui étaient arrivés en Europe et de l'Égypte. On verra que l'égyptologie va naître réellement à cette époque dite des Lumières pour pouvoir en fait absorber tout ce qui vient d'Afrique et pouvoir en fait diaboliser et manipuler pour dire que l'Égypte n'est pas une civilisation noire africaine, mais une civilisation arabe ou pire encore occidentale. Donc vous voyez que tout ce que nous vivons maintenant est le fruit d'un plan à long terme pour fragiliser les populations africaines, pour les déposséder de ce qu'ils ont, les culpabiliser, leur dire qu'ils n'ont pas d'histoire, qu'ils n'ont pas de science, qu'ils n'ont pas de rapport avec le divin, pour leur faire croire que tout leur a été donné, qu'ils n'ont jamais eu de civilisation. Et voilà pourquoi tous ces discours reviennent souvent, hein, de la part des leaders pour venir agresser la mentalité, la fierté, le courage des populations africaines afin qu'elles n'entreprennent pas, afin qu'elles s'apitoient sur leur sort, afin qu'elles n'imaginent pas Afrique est beaucoup plus organisée, beaucoup plus unie. Il est certes vrai que ces connaissances sont au dehors, mais lorsque il y a des politiques économiques et culturelles qui sont mises en place et surtout médiatiques pour paupériser les populations, lorsqu'il y a des opérations de guerre qui sont mises en place, c'est-à-dire les guerres qui sont financées de par l'extérieur, des maladies qui sont injectées dans les populations pour faire croire aux gens que ce n'est que par leur délinquance sexuelle qu'ils ont le sida et d'autres maladies, alors que ces maladies sont implantées par des opérations bidons d'ONG pour pouvoir répandre des fléaux à travers le continent africain, et ben tout ça sont mises en place pour pouvoir fragiliser les choses. Et en fin de compte, on dira simplement voilà, ils sont maudits, voilà, ils méritent leur sort, alors que c'est le fruit d'un plan bien pensé pour pouvoir fragiliser ces gens. Donc, comme nous l'avons dit, c'est une opération qui a été mise en place et qui a commencé ou qui a été plutôt injectée très insidieusement, surtout par les élites religieuses, car l'Africain étant religieux par essence, c'est par le cœur que l'on parvient à son esprit. Et lorsqu'on détruit son esprit, eh bien, on détruit sa capacité créatrice. Car l'ancienne Égypte était créatrice par son spirituel. Les temples qui sont construits, les pyramides qui sont construits, l'organisation de la société est d'abord le fruit spirituel. Car la royauté même est spirituelle parce que le roi est un saré, un sara, un fils de Dieu. Donc lorsqu'on détruit la personnalité, lorsqu'on détruit le spirituel de l'Africain, eh bien, on ne peut avoir aucune base inventive et créatrice. Évidemment, nous voulons ici marquer la nuance que tous ceux qui sont créateurs ne sont pas forcément religieux. Il y a des athées, il y a des créateurs et des inventeurs et des scientifiques athées, c'est connu. Stephen Hawking, je crois, est athée, hein, était athée du moins. Il y a beaucoup de scientifiques ou de génies qui sont athées. Il y a des génies qui sont dans la culture musulmane, islamique. Il y en a qui sont dans la culture dite chrétienne. Il y en a qui sont dans des loges. Il y en a qui sont dans des rites traditionnels. Donc c'est un peu de tout, mais l'homme, l'être humain, la femme, croit toujours en quelque chose. On croit toujours en quelque chose. Mais on ne croit pas dans le néant. Parce qu'avant le néant, il y avait même quelque chose. La nature a horreur du vide. Et toute personne a des convictions invisibles. Je répète, toute personne a des convictions invisibles. Car même lorsqu'on est savant, versé dans les mathématiques et dans les sciences, on croit en l'invisible et l'on émet une hypothèse qui est d'abord invisible, mais que l'on va expérimenter pour arriver au visible. Et lorsque l'on ne voit même pas le visible, ou du moins on émet des théories sur l'invisible. Donc cela étant dit, nous disons donc pour redescendre, atterrir, nous disons donc que l'Africain, où est-ce que nous voulons en venir? Que l'Africain donc a été visé à la tête ou au cœur pour atteindre sa tête. Chose que Méricaré avait compris lorsqu'il lance une offensive envers Abydos, la Terre Sainte. Il fallait toucher au cœur pour atteindre l'esprit afin de complètement déboussoler les princes thébains. Chose qui a été faite plus tard par l'idéologie afin de fragiliser les populations africaines. Il fallait les atteindre au cœur et il fallait donc introduire dans la religion. Il fallait donc maquiller la religion pour la faire passer pour quelque chose de complètement occidental ou de complètement asiatique, alors que, comme nous le verrons très 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 et bien assez tôt, que les concepts qui sont dans la Bible, dans le Coran et dans beaucoup d'autres livres sont des concepts qui existaient déjà en Afrique et qu'il faut le regarder avec un œil avisé, un œil de connaissance pour pouvoir savoir ce qui se passe. Car chacun peut choisir sa religion ou sa spiritualité, mais le problème intervient lorsque des décisions politiques sont prises sous couvert de ces livres et pour manipuler ceux qui sont sous l'influence de ces livres et de ces courants. C'est là où ça devient dangereux, problématique et curieux pour les peuples qui sont visés par l'idéologie. Donc, tout ce détour-là, nous l'avons pris pour pouvoir expliquer aux auditeurs ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe maintenant, ces paroles abjectes que nous avons entendues de l'Occident avant-hier, ces paroles abjectes ou ces comportements acceptables que nous avons vus en Orient hier, eh bien, on leur racine tout simplement très loin dans la préhistoire où les Noirs qui habitaient déjà ces régions-là ont été persécutés et même éliminés, où la jalousie des terres de la Témérie a entraîné l'envie et la conquête des populations qui ont pris ce qui était et qui les ont ramenés et qui ont, et dans leurs écrits, construit des idéologies pour diffamer, pour diaboliser ces peuples-là, afin que chacun se mette d'accord que, hey, au fait, ces gens ne sont pas des êtres humains, on peut aller prendre ce qu'ils ont et c'est fini. Hein. Mettons-nous d'accord, ces gens sont mauvais, ces gens, créons une idéologie contre ces gens pour pouvoir arracher, arracher ce qu'ils ont. Ce qui s'est fait par exemple avec, comme nous l'avons dit, Nicolas V qui va comment dire, légaliser l'esclavage en disant non, les Noirs vous pouvez aller les conquérir, ils n'ont pas d'âme. Voilà. Donc des gens qui se mettent autour d'une table pour décider des lois du jeu, de ce qui est humain, de ce qui est bon et mal pour pouvoir piller l'Afrique. Ce qui s'est fait encore maintenant, hein, quand le G7 se réunit, on va parler maintenant du G20, mais le G7 se réunit toujours, le G8. Quand ils se réunissent ensemble, ils prennent des décisions. Après, ils disent, bon, on va intégrer l'autre. Les premiers jours, ils se réunissent entre eux. Et qu'est-ce qu'ils se disent? On ne sait pas. Et le reste des jours du sommet, ils ouvrent maintenant à d'autres personnes. Qu'est-ce que vous êtes dit d'abord entre vous quand vous n'avez pas invité les autres? Donc voilà, on va établir des lois du marché pour pouvoir paupériser les gens. Et jusqu'à présent, les pays africains payent encore les dettes coloniales. Allez-y comprendre quelque chose, même en Haïti. Allez-y y comprendre quelque chose. Un groupe de personnes donc, qui se mettent ensemble pour décider ce qui est bon et mauvais, surtout dans la religion. Nous pensons au conseil de Nicée avec Constantin. Nous pensons à des rois comme James, King James. Nous pensons à tous ces conseils qui ont été faits avec quelques Africains simplement, ou sans, et qui ont mis en place les bases de la religion telle qu'elle doit être vécue. Nous pensons par exemple aux vierges noires, à la Vierge, à l'enfant Jésus, qui n'est qu'une émanation de Isis et Horus. L'a-t-on dit aux Africains quand les prêtres sont arrivés ici? Non, c'est pas ce qui a été dit. Bref, nous reviendrons sur ces sujets de long en large lorsque nous commencerons ce sujet-là. Donc, nous avons dit que la manière dont on est perçu, nous les Africains, nous l'avons dit dans une émission précédente, il était dit à l'époque, d'après les savants grecs, que les Égyptiens, les Éthiopiens étaient les hommes les plus pieux, les plus immorales, irréprochables, c'est écrit dans l'Odyssée d'Homère et dans l'Iliade, que les Éthiopiens étaient les plus vertueux, que les Égyptiens étaient les plus grands et les plus vertueux aussi des hommes, que le territoire de Cham était les territoires qui étaient les plus fertiles et les plus pacifiques. C'est écrit aussi dans les textes bibliques. Mais maintenant, lorsqu'on regarde la liste des pays les plus corrompus, on voit des pays africains en tête. Curieusement, il n'y a pas la liste des pays corrupteurs. On l'a déjà dit. Ici, vous voyez que c'est une idéologie pour pouvoir affaiblir les nations africaines. Comme nous l'avons dit par rapport à ce que mon ami avait partagé, il y a la responsabilité des Africains aussi eux-mêmes qui ont des comportements si peu recommandables. Nous avons nos dirigeants africains qui se comportent de manière très peu recommandable pour la plupart d'entre eux, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, qui ne sont que des valets, des laquais. Mais cependant, nous devons nous faire violence, nous devons rentrer en nous-mêmes pour comprendre quelle est la stratégie à faire. Nous rendons compte de ce qui se passe, de comment nous sommes diabolisés. Comme nous l'avons dit, nous n'avons pas nous auto-flageller, disant que c'est l'homme noir, la femme noire qui accomplit un péché extraordinaire qui fait qu'il mérite ce qu'il arrive. Nous avons bien dit que les autres ont fait certainement bien pire. Mais nous devons maintenant penser stratégie, car il y a un temps pour tout. Un temps pour aimer. Un temps pour semer. Un temps pour récolter. Un temps pour faire la guerre. Un temps pour faire la paix. Et ici, nous sommes dans la stratégie de guerre, d'abord mentale, intellectuelle, pour avoir la stratégie qu'il faut pour pouvoir répondre à l'offensive. Donc, ce que nous voyons maintenant avec ce qui se passe dans le monde, cette haine, que ce soit en Orient, en Occident, est le fruit d'une longue construction qui a été mise en place par les intellectuels de ces nations-là, de ces contrées-là, afin d'affaiblir l'Afrique, afin de pouvoir venir s'enrichir, de venir puiser chez elle sans vergogne, sans état d'âme, en convaincant le monde entier qu'en fait ils méritent, ce ne sont pas des êtres humains, ils ne méritent pas ces choses, et on doit venir les prendre pour s'enrichir nous-mêmes, alors que nous leur avons apporté aussi la civilisation clé en main. car nous savons que dans les périodes biblique en tout cas Nouveau Testament, vous savez, on parlait de Siméon appelé Niger dans les actes, par exemple dans Actes 13 verset 1, on a Siméon appelé Niger. Ça vous rappelle quelqu'un? Ça rappelle Pessinus Niger, c'était noir, c'était ce monsieur Siméon appelé Niger. Il y a Lucius de Cyrène, toujours dans Actes 13 verset 1. Cyrène, c'est en Libye. Vous avez Simon de Cyrène, l'un des noirs de la Bible, qui habite où? En Libye. Donc vous avez ces personnages noirs là qui sont en présence là, qui était dans cette culture aussi pré-chrétienne ou chrétienne, si on peut appeler ça comme ça, qui étaient des docteurs, qui étaient de la connaissance, qui ont donc participé au développement de cette idéologie ou de cette pensée ou de la religion, de cette religion, mais dont on n'a jamais parlé quand les exploitants sont arrivés, ou appelons-les les pirates plutôt, sont arrivés. On a tout fait croire que voilà, non, tous ces concepts, tout cela n'est que le fruit de l'Europe ou de l'Asie et non pas de l'Afrique. Hein, et nous parlerons bientôt de tous les rapports qu'il y a, de comment ça a été puisé en Afrique. Donc, lorsque nous ne sommes pas conscients de ça, eh bien, on se fait manipuler, on se fait berner. On croit que la Chine va venir nous sauver, on croit que c'est l'Occident qui va venir nous sauver. Eh bien, on se rend compte du contraire maintenant, que dans les deux pôles, en 2-3 semaines, on a eu le témoignage, ou du moins ce que nous avons refusé de voir, parce que nous avons fait l'autruche de croire que les autres sont là pour notre bien-être, alors que depuis des siècles, depuis des millénaires, l'ambition de ces peuples a toujours été de nous infiltrer, d'entrer en Afrique, d'entrer chez les peuples noirs, de les piller et de prendre ce qu'ils ont et de revenir et d'aller chez eux. Maintenant, on ne va pas caricaturer pour dire que tous les individus sont comme ça. Non, on va dire qu'il y a eu au cours de leur histoire, il y a eu des élites politiques qui ont pensé comme ça. On ne va pas dire que toutes les populations sont comme ça, tous sont comme ça. Non, mais il y a eu des élites politiques qui réfléchissent en stratégie de guerre, qui mettent leur état d'âme d'à côté et qui veulent d'abord conquérir pour le bien-être de leur civilisation, ont réfléchi et ont pensé et ont agi comme ça. C'est ce que nous disons ici. Donc, revenons à Mountotep, revenons au 21e siècle avant Jésus-Christ, où la guerre a commencé, tout le monde a pris position. Mountotep est donc sous l'œil de Muntu, dieu guerrier, à l'image d'aigle, dont, mythologiquement parlant ou spirituellement parlant, a pour adversaire Sekhmet, que l'on peut aussi associer à Bastet, lionne à couronnée de soleil. Le combat donc idéologique se fait entre les deux, qui se représentera sur Terre par le fait que si les virus, une pandémie se manifeste, donc c'est le Nkulunkulu qui représente, donc on va donner donc le nom de la divinité qui fait face à Sekhmet ou Bastet dans le monde spirituel. On va l'associer donc sur la Terre à Auvernonia ou Nkulunkulu qui va lutter contre la maladie quand on est par exemple touché par un virus, par une pandémie qu'on va égaliser à Sekhmet. Donc, la guerre va commencer, les pions vont être mis en place. Mountotep, nous rappelons, dont le nom de naissance nous permet de discerner sa personnalité. Hein. Il est né en Afrique noire, principalement en Égypte, et son nom, qui est le Ren, nous avons commencé cet exemple avec un souvenir de mon enfance. Nous savons qu'il faut remonter à l'enfance pour comprendre à qui nous avons affaire avec Mountotep ici. Et son nom, qui fait partie des 9 niveaux de l'âme égyptienne, nous en avons déjà parlé. On sait que le nom qu'on appelle le Ren est extrêmement important. Et tout au long de son histoire, Mountotep va adopter plusieurs noms, un peu comme en Afrique, les musiciens congolais par exemple, qui prennent toujours des sobriquets. Hein. Alors, le nom ici qu'on appelle le Ren est donc une entité principale pour pouvoir déterminer qui est la personne. Donc le nom de Mountotep, qui lui est donné par son père Intef, qu'on appelle aussi dont on pourrait translittérer aussi son nom par Agnoto, hein, ou Anitef, on l'appelle Anitef, Agnotef, mais on pourrait aussi qui se rassemble, ça nous fait penser aussi à Agnoto, qui est au fait simplement la caste des hommes léopards, hein, le groupe des hommes, la fraternité des hommes léopards en Afrique centrale, donc qu'on peut aussi lier au prêtre Sem, c'est-à-dire cette caste de personnes qui portent la peau de léopard et qui est censée introniser le roi, qui est censée former, protéger le roi, du moins qui est dans la prêtrise de la royauté, dans l'initiation de la royauté. Donc on sait que donc Intef donc est probablement ancré dans ça, dans le mythe du roi léopard. Et il donne évidemment à son fils le nom de Mountouhotep, nom qui va préfigurer sa personnalité, parce que sous Intef ou Agnoto, comme moi je vais l'appeler maintenant, le père de Mountouhotep, eh bien nous sommes dans un contexte de guerre froide, comme nous l'avons dit, la guerre froide du désert, c'est-à-dire que son grand-père, le grand-père d'Agnoto, avait fait la guerre, mais cela se, il y avait des périodes de paix. Donc sous Agnoto, le père de Mountouhotep ou Intef, il y a donc des périodes de guerre, mais aussi des périodes de paix. Et sous Mountouhotep, il y a une paix qui va quand même durer largement ou relativement longtemps. Donc nous sommes dans un contexte ici de guerre froide du désert. Mais tout va changer lorsque le Nord va décider de piller, d'attaquer la ville sainte d'Abydos, où est initiatiquement enterré Osiris et son héros d'enfance, le héros d'enfance de Mountouhotep, à savoir Narmer. Mountou donc est voué à la guerre et aussi à la paix, parce que Mountou, on sait que c'est le dieu guerrier, mais Hotep, ça signifie la paix. Donc il a à la fois ce double aspect de paix et de divin, c'est-à-dire qu'il est né dans la paix, mais il a une vocation divine. Donc il y a un prêtre égyptien lorsqu'il est né, ou une prêtresse égyptienne qui certainement ou peut-être prophétise sur son nom pour dire que cet enfant sera un homme de paix et un homme de guerre. Hein, c'est ce que la prophétesse, on imagine, hein. Nous pouvons croire, parce que c'est ce qui se passait, les enfants lorsqu'ils naissaient, il y avait des prophètes, il y avait des noms, on ne donnait pas des noms au hasard. Donc nous pouvons imaginer que certainement une grande adoratrice, peut-être une Nubienne, une prêtresse vient, une sage-femme, fait naître l'enfant, prophétise sur l'enfant et dit, cet enfant sera à la fois un homme de paix et de guerre. Donc d'où nous avons son nom, Mountouhotep, qui a à la fois la guerre et la paix. Mountou est le divin guerrier et Hotep c'est la paix. Vous savez, on a parlé de pharmakon ici, pharmakon qui est ici du grec pour dire ce qui apporte la sécurité, hein, le médicament, hein, qui va nous donner plus tard pharmacie. Mais pharmakon vient du pharmaki, hein, qui est comme kisi chez nous les au niveau de l'Afrique centrale. Donc le même mot signifie à la fois le médicament et à la fois le poison, la chose et son contraire. Donc on a cette pensée là au niveau de Mountouhotep. Et dans la culture africaine, le nom est ensuite enfermé dans un cartouche pour le protéger mystiquement, hein. Et évidemment plus tard d'autres noms vont venir se greffer pour protéger le nom de Mountouhotep. Méré Carré, de l'autre côté, lui, on a dit son nom, c'est fini avec un Ré, donc on a l'image du roi Ré, donc du dieu Ré, le soleil, qui a pour fille Sekhmet ou Bastet, donc tête de lion, dieu, divinité, déesse guerrière. Donc nous avons ici le combat entre la déesse guerrière et le dieu guerrier, donc Mountouhotep et Bastet ici, qui vont s'affronter deux idéologies qui se représentent sur Terre par Mountouhotep et Méré Carré. Nous sommes donc ici dans un contexte où la guerre froide est terminée et où les hommes vont maintenant commencer. Alors, la guerre, elle se fait en la préparant. Mountou, nous savons, Mountou signifie l'homme et signifie à la fois Dieu. Voilà pourquoi Jésus qui dit par exemple, je suis le fils de l'homme. Ça n'a aucun sens en français, ça n'a aucun sens en anglais. Ça n'a qu'un sens que lorsqu'on parle les langues africaines, parce que Mountou, c'est le nom de Dieu. Et Mountou, c'est le nom de l'homme. Donc quand il dit je suis le fils de l'homme, c'est homme, ce homme-là, c'est homme, c'est un mot qui à la fois signifie homme et Dieu. Donc il dit je suis le fils de Dieu. Donc ça ne peut se comprendre que lorsqu'on parle de la langue africaine. Il ne dit pas je suis le fils de l'homme, il dit je suis le fils de Dieu. Pourquoi? Parce que le mot Mountou, ça le signifie à la fois, c'est le seul, il n'y a que des langues africaines où le mot de l'homme et le mot de Dieu signifient la même chose. Donc quand il dit je suis le fils de l'homme, il veut dire je suis le fils de Dieu. Donc Mountou, vous voyez? Et on approfondira ça beaucoup plus tard. Alors Mountou, c'est le Dieu, c'est Dieu chez les Égyptiens, ok, n'est-ce pas? Encore, nous répétons qu'il n'y a pas de polythéisme, c'est un monothéisme, mais il y a plusieurs aspects de Dieu. C'est exactement comme dans le christianisme, on a Yahweh, qui se représente par El Shaddai. On va dire El Shaddai, c'est le Dieu tout-puissant, si je ne me trompe pas. On va dire Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, hein, Jéhovah Tzidekenu. On va dire Dieu ma justice, Dieu mon guérisseur, Dieu celui, ceci, El Shaddai, El Elyon, ceci, cela. C'est ce qu'on dit en théologie. Nous rappelons bien en théologie. Mais nous savons que elle est une divinité à part entière qui est représentée chez les Grecs. Pardon, chez les les Hébreux. El, c'est une divinité. Si vous tapez El, allez même sur Wikipédia, El, vous verrez à quoi il ressemble. Donc quand on veut dire que El, on va dire que c'est l'aspect de Dieu. C'est un aspect de Dieu. C'est la même gêne que vous avez lorsqu'on dit Muntu. Ah, Muntu, est-ce que Muntu c'est Dieu? Parce qu'on voit, on voit que c'est une sorte de divinité séparée de Ré, de Osiris. Non, c'est la même chose, mais c'est différents aspects. C'est la même chose que dans le christianisme qu'on dit. Voilà, on a Yahweh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, mais ou El Shaddai, El Elyon, mais on voit El qui est représenté comme tel, comme une divinité à part entière. Et ça pose problème. Donc c'est un peu ça. Nous passons. Donc Muntu est ce que les Grecs vont penser que les Grecs ont envahi l'Égypte. Nous l'avons dit sous les Ptolémées. Quand les Grecs vont envahir l'Égypte, ils vont prendre tout le panthéon égyptien pour en faire le panthéon qui est leur. Parce que même lorsque, au 7e ou 8e siècle, où on va imaginer l'Iliade et l'Odyssée, où on parle déjà des Zeus et consorts, c'était à cette époque-là que les Platons, les Hésiode, les Pythagore, les Thalès viennent déjà massivement en Égypte à cette époque-là pour pouvoir étudier ce qu'il y a en Égypte et repartent en Grèce pour pouvoir les enseigner. Et les Socrate et le reste vont faire de même. Voilà pourquoi Clément d'Alexandrie dit qu'un livre de 1000 pages ne suffirait pas pour dire tout, comment est-ce que ses compatriotes grecs ont usé et abusé des connaissances égyptiennes. Donc tout ce qu'ils ont pris chez eux, ils les ont appliqués chez eux. Voilà pourquoi le dieu Typhon, c'est Seth. Voilà pourquoi on dit par exemple que Bacchus, ça serait peut-être Osiris, parce qu'on voit le vin, la vigne, tout ceci, c'est là. Voilà pourquoi Banejet, par exemple, c'est Hercule. Banejet qui est un aspect d'Osiris, qui va devenir Hercule chez les Grecs plus tard. Et voilà pourquoi, enfin, Muntu, hein, dieu guerrier, va devenir Arès chez les Grecs. Muntu, je répète, va devenir Arès chez les Grecs. Et Arès, lorsque l'Égypte sous les Grecs sera dominée et envahie par les Romains, eux aussi vont prendre le panthéon égypto-grec pour en faire le panthéon romain. Ce qui veut dire que Muntu, qui est devenu Arès va devenir, devinez qui? Mars, n'est-ce pas? Alors, lorsqu'on parle de art martial, de arts martiaux, vous voyez d'où ça vient? D'où je dirais donc à nos frères qu'il ne faudrait pas dire arts martiaux en Afrique, ça n'a pas de sens parce que les Japonais ne disent pas arts martiaux. Les Européens disent arts martiaux parce que c'est lié à leur culture romaine, gréco-romaine, de Mars, et ils vont dire arts martiaux. De même que les Américains vont dire martial art. Ils vont parler de martial. Parce que ça vient de Mars, de l'Europe, parce qu'ils sont des Européens à la base. Mais nous, en Afrique, où les Noirs ne peuvent pas dire arts martiaux, ça n'a pas de sens, ils doivent dire arts muntu. Arts muntu. Pourquoi? Parce que martiaux vient de Mars. Mars vient de Arès. Arès vient de Muntu. Donc, quand vous dites arts martiaux, donc vous croyez que la guerre, les concepts de guerre ont été d'abord conçus par Arès, par les Grecs. Et voilà pourquoi au début du livre de Robert Greene, il dit ne suivez pas Arès, mais suivez plutôt Athéna. Parce que Athéna aussi est une déesse de la guerre et de l'intelligence. Arès, c'est plus le dieu brut, de la violence brute. Mais Athéna, c'est plus celle qui est apaisée, celle qui est stratégique. Alors que Arès est plus la force brute, la guerre brutale. Mais le bâton. Alors que Athéna, bien qu'elle ait un bouclier aussi, et un casque, et une épée j'imagine, mais elle est plus la voix de la raison. Athéna. Or Athéna aussi est liée à tout ce qui est égyptien, parce qu'on a, chez les égyptiens, tenez-vous bien, on a Séchat. Hein, on a Séchat. Et curieusement, le mot Athéna aussi, on va vous dire que la racine est obscure, tout ceci, c'est là. Mais on sait très bien que les premières villes, Athènes, Thèbes, toutes ces histoires, ont été conçues par des civilisateurs égyptiens. J'en renvoie au livre Black Athéna de Martin Bernal. Donc, Séchat, qui est apparemment une divinité, qui porte un pagne à peau tachetée de léopard, eh bien, elle est celle qui est responsable de la création de la comptabilité, de l'écriture, de l'astronomie, de la stratégie. Et elle est aussi liée évidemment à Bastet et à Sekhmet, qui sont aussi divinités de la guerre. Donc Athéna vient de ces principes féminins de guerre et de réflexion et d'intelligence qui étaient déjà présents en Égypte. Parce que les Grecs, eux, sont patriarcales. Eux, dans leur vases, dans leur art, dans leur littérature, n'ont pas d'éloge de la femme. Bien au contraire, c'est plus des relations homme-homme qui sont privilégiées. La femme est vraiment mise au second rang. On ne la considère presque pas. De même que chez les Romains aussi. Mais alors que dans la culture africaine ou dans l'Antiquité, il valait mieux être africaine ou égyptienne ou éthiopienne, nubienne, qu'être d'une autre contrée parce qu'elles n'avaient pas de droit. Alors qu'en Afrique, c'était tout le contraire. L'homme, vous voyez par exemple dans l'art, vous verrez beaucoup d'art où on voit l'homme et la femme. Mais dans les civilisations orientales, de la Palestine ou gréco-romaine, combien avez-vous laissé, vous connaissez ces images de l'homme, une femme sur un trône? Il y en a beaucoup en Égypte, la famille, hein, l'homme, la femme et l'enfant. Hein, il y a beaucoup d'images comme ça de du roi, de la reine, de l'enfant de l'Égyptien normal, moyen, avec sa femme, l'homme, la femme, l'enfant. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de ces images-là, il n'y a pas d'image ou presque pas dans les civilisations européens centrés en Europe, en Grèce, à Rome, c'est plus des relations homme-homme, hein, ou femme-femme, mais on n'a pas de relations homme-femme dans les statues où on va mettre ça au niveau de l'art, au niveau de la sublimation. On va pas le mettre. On n'est pas ici pour attaquer les gens, pour dire c'est bon, c'est mauvais. On n'est pas là pour attaquer les gens. On est en train de parler d'histoire, de comment l'histoire a évolué, de comment l'histoire est. C'est tout ce qu'on est en train de dire. Donc, au niveau de l'Afrique, il y avait donc cette importance de la femme, et même dans le mythe de la création dont on parle, où il y a huit civilisateurs avec des houes, on a autour de ce cercle-là deux femmes qui renversent de l'eau ou des graines. Donc, on voit l'importance de la femme, ce qui n'est pas dans l'écriture gréco-romaine. Donc, le fait de voir Athéna sur position-là, on voit très bien que c'est issu de la pensée africaine, de Séchat ou de Sekhmet ou de Bastet, ou encore mieux, de Isis. Donc, cet aspect-là vient donc des civilisations africaines. Donc, Muntu va donner Arès, Arès va donner Mars, Mars va donner les arts martiaux. Et curieusement, en parlant de Muntu, c'est dans la tombe d'un personnage noble qu'on appelle Banquet III, hein, Banquet III, qui dirigeait le Nome, donc la province de l'Oryx, l'Oryx qui est une espèce d'antilope. C'est dans cette tombe-là, la tombe de Banquet III, qu'on va retrouver ce qu'on appelle à localiser dans la tombe BH15. Je répète, la tombe BH15, que l'on va retrouver des exemples, les premiers exemples, je crois, dans l'histoire de l'humanité, en tout cas les plus vieux, d'arts martiaux. Bon, c'est vrai, là, on est à la 11e dynastie, mais déjà vers la 5e, 6e dynastie, on a aussi déjà, toujours en Égypte, des fresques avec des arts martiaux. Donc, dire que Banquet III, c'est la première chose, non, mais disons qu'en Afrique, c'est là où on retrouve ces traces-là. Donc, je répète, chez Banquet III, la tombe BH15 de Banquet III, souverain du nome de l'Oryx, on retrouve des exemples d'arts martiaux. Donc, pour dire que lorsque, à cette première période intermédiaire de guerre, les hommes ont commencé à réfléchir très tôt à comment développer les arts martiaux. Nous disons déjà bien avant, ça existait, parce que déjà, à la guerre du prédynastique, il y avait déjà conflit, donc il fallait déjà commencer à théoriser sur la guerre, et ça avait déjà été fait. Mais on se rend compte déjà vers la 5e et surtout vers la 11e dynastie, eh bien, il y a une théorisation encore plus poussée de la guerre par les arts Muntu. Je rappelle, c'est les arts Muntu. On ne doit plus parler des arts martiaux. Si pour un Européen qui parle art martial, je respecte. Pour un Américain, je respecte. Un Asiatique va venir avec son nom. Le judo, c'est le judo. Hein. Ils ont leur nom à eux. Mais quand on est en Afrique, de grâce, parlons d'art Muntu. Hein. Parlons d'art Muntu. Hein, et pas d'arts martiaux. Donc, je conçois mal qu'on soit dans les arts martiaux en Afrique et qu'on dise je pratique les arts martiaux. Non, on est dans les arts Muntu. Parce que Mars, hein, ça vient de Arès. Arès, ça vient de Muntu. Et les arts martiaux en tant que tels, se battre, les projections, hein, les judos en question, les prises de judo dont on parle là, eh bien, c'est dans le tombeau de Banquet III, hein, la tombe BH15, où on voit des projections que l'on va peut-être plus assimiler à de la lutte ou au catch un peu, hein, en anglais wrestling, hein, à de la lutte, mais on peut très bien voir des mouvements qui ressemblent beaucoup aux mouvements de judo. Donc les arts Muntu sont très développés sous Muntuhotep, qui porte aussi ce nom-là. Donc c'est à cette période-là que l'art de la guerre va être développé en tant que concept même au niveau de l'Égypte, où plusieurs stratégies vont être mises en place pour gagner la guerre au niveau de la guerre que les autres diront martiale, mais que nous livrons au niveau Muntu. Hein. Nous parlons, je répète, les arts Muntu. Donc, au niveau le système de défense, tout va être codifié, tout va être organisé, car dans la tombe de Banquet 3, on voit tout cela bien organisé. Je vous invite à faire la recherche sur Google, sur Internet. Et ensuite, sur le point de vue technologique, Muntu Hotep, qui donc est dans les arts Muntu, qui est donc sous Muntu, qui donc mène la guerre, va aussi développer la technologie militaire qui va lui permettre de gagner la guerre. Car c'est sous Muntu Hotep, sous la 11e dynastie, que l'on va être témoin de l'invention de plusieurs innovations, comme par exemple une fresque qui montre dans le temple de dans un des tombeaux, qui montre que la roue était déjà connue des anciens Égyptiens, car il y a une espèce de tour qui est circulaire et qui fonctionne avec un système de roues et qui montre les Égyptiens de la 11e dynastie qui s'en prennent à une citadelle du nord défendue par des Asiatiques et des Égyptiens du nord. Et cette citadelle, et il y a plusieurs princes thébains ou guerriers thébains qui montent cette espèce de tour pour aller combattre les Égyptiens du nord ou les Asiatiques. Donc on a déjà l'existence de la roue au niveau de la 11e dynastie. On va nous dire que la roue vient d'ailleurs, que les Africains n'ont pas inventé la roue. Non, il y a la roue au niveau de la 11e dynastie. Et plus tard, au niveau de la 11e dynastie aussi, il y a l'innovation au niveau des chars. Car il y a des espèces de chars qui sont construits. On les retrouve encore dans les tombeaux, dans les fresques, où il y a des espèces de chars, c'est-à-dire une espèce de couverture, hein, de peau d'animal, dans laquelle les anciens Égyptiens vont se réfugier et où il y aura une sorte d'ouverture pour permettre à une lance de décocher, pour permettre à un arc de décocher une flèche. Donc c'est une espèce de dôme, hein, une espèce de dôme qui peut recueillir au moins 2 à 3 personnes sous lequel les Égyptiens vont se cacher et vont pouvoir être mobiles, se déplacer, et qui sera donc à l'épreuve des flèches qui seront lancées contre eux, mais qui aura une petite ouverture large, assez large pour pouvoir faire passer des flèches. Donc j'espère que vous pouvez vous imaginer ça aisément dans votre imaginaire, c'est-à-dire qu'on a une espèce de dôme, je répète, fait de peau d'animal, hein, qui recouvre 2 ou 3 Égyptiens et qui leur permettent d'avancer pour se protéger des flèches et de pouvoir aussi décocher les leurs. Donc c'est un char primitif, ce qu'on appelle, c'est un char de combat primitif que les anciens Égyptiens avaient développé. Donc au niveau technologique, on se rend compte que Muntu Hotep innove énormément avec dans les armes Muntu, hein, les arts Muntu, car on est sous Muntu là. Muntu Hotep est en train de guider cette génération de princes thébains, les princes du Nord, car la guerre est déclarée. Je répète, la guerre est déclarée. La guerre froide a cessé. Nous sommes dans la guerre. Le Sud attaque le Nord pour délivrer la Tamérie, pour pouvoir réunifier le pays, pour pouvoir accomplir l'exploit de Narmer qui avait été accompli plus de 1000 ans plus tôt. Et ben, tout est mis en œuvre maintenant pour pouvoir gagner. Donc, nous avons ici un Muntu Hotep qui n'est pas dans la pleurnicherie. Certes, l'esprit a été touché. Certes, la terre sainte d'Abydos a été touchée. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va se réfugier dans la stratégie, dans la technologie, par les arts Muntu qui seront développés, par les instruments de guerre, comme cette tour roulante dont j'ai parlé, dans ces chars primitifs ou primaires qui ont été construit et conçu afin d'avoir la guerre. Et c'est la stratégie avec laquelle nous, les Africains, en cette période de coronavirus, que nos dirigeants doivent avoir, ne pas se laisser impressionner par ce qui est dit de nous en Occident et en Orient et ce qui est fait de nous, mais nous rassembler autour d'une seule idéologie, d'une seule pensée de la victoire, d'avoir des stratégies et d'être dans la science, dans la technologie. C'est-à-dire, quelle est la réponse de l'Afrique en termes de technologie? par rapport au coronavirus. Il y a les ingénieurs qui sont en train de s'organiser, comme par exemple nous la citerons, Sandrine Mubenga, Sandrine Galula Mubenga, qui est une ingénieure congolaise au niveau des États-Unis, qui rassemble tous les ingénieurs de ce pays à travers le monde pour pouvoir en fait construire des respirateurs. C'est ça la réponse africaine, c'est ça que nous voulons. Donc pensons comme Muntu Hotep, arrêtons de pleurer. Pensons à, comme les ingénieurs, développons les arts Muntu, développons la technologie pour répondre au coronavirus, pour répondre à la aux défis qui nous est fait, aux attaques qui nous sont faites par rapport à la démographie, car nous devons avoir un peuple qui est fort et intelligent. Les Européens sont simplement 13%, mais ils dirigent le monde. Israël, c'est un petit pays qui est entouré des pays arabes, mais ils se défendent. C'est bien beau d'avoir des milliards de personnes en Afrique, mais il faut avoir une population qui est consciente, qui est dans les arts Muntu, qui est dans la technologie, qui répond avec l'intelligence, la sagesse, et non pas être simplement dans la pleurnicherie, ou en se disant que non, voilà, on doit être beaucoup plus tard, on veut nous tuer tout. La quantité, mais avec la qualité. Donc, merci beaucoup. La suite au prochain numéro, et ça va faire mal. Très très mal. On aura du lourd, du très lourd. Bye bye. Vie, durée, santé.